De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Français, américain, portugais, paraguayen et égyptien, Cinérama est plus que jamais une émission qui vous fait voyager sur différentes terres cinématographiques, autant de films pour autant de nationalités, dont certaines plutôt inattendues, je pense notamment à la paraguayenne.
Oui, je crois qu'il y a eu très peu de films paraguayens sortis ces dernières années au cinéma. Alors autant en Amérique du Sud, on a vu beaucoup de films brésiliens, chiliens, argentins, mais le Paraguay, donc je vous parlerai des Héritières.
Et puis deux autres films.
Oui, le nouveau film de Steve McQueen, Les Veuves, et puis Diamantino, un film portugais un peu particulier.
Et puis nous aurons deux interviews cette semaine avec Frédéric Tellier, réalisateur de Sauver ou Périr, film avec Pierre Ninet et Anaïs Desmoustiers. Et puis nous écouterons aussi alors, le réalisateur égyptien Abbé Choki pour Yomedine, qui est un feel-good movie égyptien. Voilà, c'est Cinérama qui débute alors, avec une histoire un peu extraordinaire d'un footballeur.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Messieurs, dames, deux minutes d'attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler des Diamantino. C'est un film sur ma vie et plein de gens l'aiment déjà. Il a même remporté un grand prix au Festival de Cannes. C'est bien, non?
On entend la version française, en fait. Mmh. Hein, il a une voix très différente dans la version originale. Je suis un peu surpris. Oui, on peut commencer de cette manière, hein, comme un conte de fées farfelu, sorti de nulle part, ne s'attachant à aucun genre et les embrasant tous avec une fougue et une inconscience assez rares dans le cinéma contemporain. Car ne vous fiez pas aux apparences, hein, Diamantino n'a rien de l'objet arty un peu mode qui élèverait le sport au rang d'art majeur. Pas de pause ni de réflexion bidon sur le geste sportif, cliché pénible de déification des footballeurs entre autres. Alors c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué aussi, et surtout plus ludique. Alors l'intéressé, hein, Diamantino, puisque c'est son nom, en parle d'ailleurs mieux que personne.
On m'appelait le Michel-Ange du terrain. Quand j'y jouais, il se passait des choses assez folles. C'est vrai, en dehors du football, je ne connais pas grand-chose. Et la rencontre avec ces gens, ça m'a ouvert les yeux. Sur les terrains, j'en ai perdu la magie. Elles, ce sont mes sœurs. Je pense que vous n'allez pas les aimer. Il faut dire qu'à cause d'elles, il va m'arriver des choses bizarres. Il y a aussi Raïm, un jeune que je vais aider et qui va changer ma vie. Et à partir de là, j'ai perdu tout contrôle. Pourtant, je n'ai jamais rien fait de mal.
C'est ce qu'elle faisait au pain.
Mais j'arrête là, sinon vous allez dire que vous avez tout vu dans la bande-annonce.
On n'a pas tout vu, hein, quand même. Alors, il était une fois le candide Diamantino, sosie presque parfait de Ronaldo, icône planétaire du football. Alors, lors de la finale de la Coupe du Monde, auréolé donc de ce rêve rose, son inspiration s'envole soudainement et il décide de stopper sa carrière. Problème récurrent des joueurs de foot, à part taper dans un ballon, ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Et le Bene Diamantino ne fait pas exception à la règle. La star déchue, devenue la risée du peuple, décide à sa manière de prendre son destin en main. Enfin, le croit-il, en voulant s'ouvrir au monde, lui qui a vécu dans une bulle. Le jour où son père décède, il change de cap. Les images de migrants le perturbent et il va alors en adopter un. Alors, sauf que le migrant en question, c'est en fait une jolie inspectrice travaillant pour le service des fraudes. Alors Diamantino se retrouve alors embarqué dans une folle histoire, manipulé de toutes parts, alors aussi bien par les autorités, ses sœurs jumelles qui n'en veulent qu'à sa fortune, et aussi le parti d'extrême droite portugais. Sur fond de complotisme, de manipulation génétique dérivant vers la science-fiction débridée, Diamantino devient alors le croisement improbable entre le serial le plus cheap, la parodie queer et le film d'auteur farfelu. Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt. Alors, je croyais que le Daniel Schmidt en question était un réalisateur suisse qui a une carrière assez importante, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est bien un premier film. Donc, les deux réalisateurs n'ont peur de rien, ni de rendre hommage au jazz franco des années 60, amoureux des céréales, ni de s'en prendre au mouvement extrémiste prêt à se servir de l'image iconique d'une star pour arriver à ses fins. D'ailleurs, le foot n'est pas du tout critiqué en tant que sport. Hein. S'il demeure toujours cet opium du peuple, les auteurs visent d'abord la récupération qu'il peut engendrer. Récupération bon, par les sponsors, publicistes et évidemment politiques. Subissant des tests visant à le cloner à l'infini, Diamantino traverse le film avec son regard innocent qui finit par toucher et même trouver une porte de sortie. Alors sans être le chef-d'œuvre du siècle, hein, cette pochade sincère, excentrique et émouvante, et on va dire c'est vraiment une bouffée d'air frais au sein d'un cinéma populaire de plus en plus consensuel. On reprochera peut-être une lâcheté du style, comme si l'originalité du propos était suffisante, mais le film est quand même émaillé d'une succession de scènes iconoclastes, de ruptures de ton incessants et d'une croyance imperturbable en son sujet démentiel. Alors on va dire que c'est un objet pop, coloré, culotté, drôle et émouvant qui se conclut de la plus belle manière au milieu de tout ce bordel, de tous ces complots et compromis. Le valeureux joueur de foot va trouver sa propre rédemption par l'amour. Message simpliste, mais suffisamment frais et singulier pour faire passer la pilule. En tout cas, on passe un très bon moment devant ce joyeux divertissement qui n'a peur de rien et qui ne ressemble à rien.
Film portugais en salle depuis le 28 novembre, Diamantino. C'est aussi le cas de Sauver ou Périr de Frédéric Tellier, sauf que là, c'est un drame avec Pierre Ninet qui est un pompier qui finit brûlé et c'est comment il va renaître. C'est Marine qui nous en parle et on écoutera ensuite le réalisateur Frédéric Tellier.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Franck a tout pour lui, une jeune épouse qu'il aime et qui est enceinte, un poste de pompier qu'il affectionne et qui va bientôt lui permettre de monter en grade. Mais un jour, tout bascule. Au cours d'une intervention, il se retrouve pris au piège des flammes. Gravement brûlé, Franck doit renoncer à ses aspirations. L'envie de mourir, l'envie de renaître, tout se bouscule dans sa tête. Lui qui va passer des semaines dans le coma, puis des mois entravé par ses bandages. Le réalisateur Frédéric Tellier, à qui l'on doit l'affaire SK1, questionne ici la figure du héros en s'appuyant sur des faits réels. Pierre Ninet, avec ce rôle, et ça commencerait presque à être fatigant, s'impose ici de nouveau défi physique. La première partie montre avec force détail la vie de la caserne, avec une rigueur documentaire, mais c'est surtout la seconde partie qui lui demande de déployer tout son talent d'acteur. Alors de ce côté-ci, pas de souci, hein, le comédien et tous les autres, Anaïs de Moustier, Samy Bouajila, sont excellents. Dommage que la trame scénaristique soit ultra classique et que l'envie de rendre hommage aux pompiers prenne un peu trop souvent le dessus sur l'histoire. On écoute le réalisateur Frédéric Tellier nous parler de Sauver ou Périr.
J'avais 18 ans quand je me suis engagé. J'ai jamais été le plus grand ou le plus costaud, mais justement. Tell me why we're going so fast. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort.
En fait, la connaissance des faits réels est venue dans un deuxième temps. J'avais d'abord envie de raconter une histoire d'amour assez intense, comme le laisse suggérer l'affiche. De raconter une histoire autour de la quête de l'identité. Voilà, je ne savais pas très bien comment articuler tout ça, mais ça tournait dans ma tête. Et puis des années plus tard, j'ai entendu parler d'histoires qui sont arrivées, d'histoires tragiques qui sont arrivées à des sapeurs-pompiers, qui avaient des accidents et qui, en incendie, et qui se réveillaient entièrement brûlés. Voilà, je me suis dit, tiens, voilà un formidable tremplin pour rentrer dans la quête de l'identité, la perte de l'identité dans un premier temps et la quête de l'identité. Voilà, donc je me suis rapproché de ces histoires, de plusieurs histoires, comme ça en enquêtant, j'ai suivi 3 sapeurs-pompiers, 2 en France, 1 à l'étranger, et j'ai articulé une histoire imaginaire en prenant des petits fragments de leur vie à eux, voilà.
Invincible, d'une certaine manière.
C'est ma façon, moi, de faire un peu les films, qui soient très réalistes, parce que j'ai l'impression que ça invite plus le spectateur à rentrer dans l'histoire, en fait, de ne pas voir que c'est du cinéma, quoi. Un train ne vient jamais seul dans le cinéma. Ce rythme-là que je cherchais pour permettre au spectateur d'entrer et d'y croire, d'oublier tout le reste autour et d'être dans l'histoire, permet aussi de rendre hommage à ces différents corps de métier, le corps médical dans la deuxième partie, les pompiers, et au-delà de ça, l'engagement des hommes en général pour aider les autres, quoi, ceux qui passent un moment de leur vie, ou leur vie, en l'occurrence les pompiers, à se dévouer aux autres pour les aider. C'est un film qui se veut plein d'espoir et un hymne à la vie dans ce sens-là. Ouais.
La vérité, c'est que personne n'est invincible.
C'est un film qui, dans l'hommage dont vous parliez très joliment, l'hommage à la vie, l'hommage aux héros du quotidien, met en avant ce personnage qui, et c'est intéressant d'ailleurs, j'aimais bien que ce soit un sapeur-pompier, parce que c'est déjà un héros avant, mais il devient un vrai héros après la bascule de sa vie. Il devient un vrai héros des petites choses de la vie de tous les jours, de sa reconstruction, de sa dignité, de l'amour de sa femme, de l'amour pour ses enfants. Voilà, je trouve, moi, c'est là qu'il devient le vrai grand héros de l'histoire.
J'ai sauvé et j'ai péri.
Voilà, le film de Frédéric Tellier que nous écoutions est en salle depuis le 28 novembre. C'est le cas aussi des Veuves de Steve McQueen. Après trois films portant sur des sujets plutôt lourds, ce sont maintenant des femmes braqueuses pour lui.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Vous ne savez rien, c'est ça ? Ou vous avez choisi de ne rien savoir ? Votre mari m'a volé 2 millions de dollars.
Il s'agit de ma vie!
Il s'agit de ma vie. Et puisqu'il s'agit de ma vie, maintenant il s'agit de la vôtre.
Délaissant les sujets à thèse un peu pesants, Steve McQueen s'empare en apparence d'un genre modeste qui a fait ses preuves, le film de casse. Mais il n'en est à rien, le Britannique voit plus grand et tente d'inscrire son film à la jonction, on va dire, de Hit de Michael Mann et du Bûcher des vanités de Tom Wolfe, brûlot littéraire de la fin des années 80, qui a été adapté au cinéma par Brian De Palma. Soit un super polar aux ambitions politiques et sociales, martelé à coups de pirouettes scénaristiques et d'effets de mise en scène très voyants. L'ouverture d'ailleurs est remarquable, elle frappe par la sécheresse du style et sa subtilité narrative, filmant un casse qui tourne mal, avec en montage parallèle, dans une temporalité différente, les quatre braqueurs vivant leur dernier souffle avec leur femme. Et sans aucune sensiblerie, d'autant qu'on sent très vite que ces dernières ne sont pas épanouies de partager leur vie avec les gangsters. Alors, comme le titre de cette adaptation d'une série anglaise au début des années 80 l'indique, les maris meurent tous. Veuves à présent et sans revenus, les quatre femmes qui ne se connaissent pas vont unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé suite à la découverte par l'une d'entre elles d'un carnet bourré d'infos. Elle se prépare à braquer 5 millions de dollars dont 2 vont servir à rembourser un politicard véreux lié à un gang local.
Qui sommes-nous quand ce monde nous force à nous mettre à genoux ?
Si ça tourne mal, je veux que mes enfants sachent que je me suis pas laissé faire. J'ai agi.
Dans cette ville, on récolte ce qu'on sème.
Espérons-le.
Alors les veuves, le film n'a aucun mal à se situer très au-dessus du navrant Ocean 8 et son défilé de greluches vieillissantes horripilantes. Première bonne nouvelle, le casting féminin n'affiche pas des stars. Bon, il y a des gens connus comme Michelle Williams, mais juste de bonnes actrices qui endossent des personnages attachants. Donc toute la partie polar avec préparation minutieuse du cambriolage se visionne avec un réel plaisir. Steve McQueen possède un sens du tempo, du suspense. Les scènes d'action, alors peu nombreuses, sont découpées avec précision. Dommage que l'ancien plasticien ne peut s'empêcher d'afficher constamment sa virtuosité et notamment lors d'un plan séquence à l'extérieur d'une voiture traversant Chicago qui est assez impressionnante mais totalement gratuite. Le thriller habile est même assez émouvant et parasité par un autre film parallèle mêlant intrigue politique et contexte social en surchauffe dans les quartiers sensibles de Chicago, verrouillé par une vision cynique et conventionnelle du système, on va dire déjà vu ailleurs et en bien mieux et en plus pertinent. Les politiciens sont tous véreux et les prédicateurs hypocrites, l'argent et le pouvoir étant les seules valeurs qu'ils défendent. Alors par excès d'orgueil et d'ambition, Steve McQueen passe à côté d'un excellent polar aux accents féministes, ce qu'il est toutefois par intermittence. Alors, deux comédiens stupéfiants surnagent de ce divertissement, je dirais, honnête, mais plombé par des dialogues sentencieux, le glaçant Dan Kaluuya en homme de main et la grande perche blonde que je connaissais pas, Elisabeth Debicki, qui est apparue dans Valerian, je crois, et les agents très spéciaux, qui est très singulière en fausses ingénues, puis je sais pas, elle a un regard très bizarre. Elle doit mesurer 1m80, pas loin d'un 1m90.
Tu aimes les actrices ?
Non, pas du tout, mais elle apporte une vraie étrangeté, on va dire, à un film que je trouve efficace, mais assez conventionnel dans l'ensemble.
Voilà, donc c'est en tout cas un petit écart de Steve McQueen par rapport à ce qu'il faisait auparavant.
C'était une commande, parce que c'était une série, en fait, une série anglaise que je ne connaissais absolument pas. Je ne suis pas sûr que ce soit une série culte ou...
En tout cas, c'est dans les salles depuis le 28 novembre, Les Veuves. On écoute maintenant la deuxième interview de cette émission, c'est celle de Youmedine.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Il y a plusieurs défis qui ont été relevés par le film égyptien Youmedine, présenté en compétition cette année au Festival de Cannes. Alors, d'une part, parvenir à produire ce film en Égypte, qui parle d'un lépreux chrétien descendant dans le sud du pays à la recherche de ses racines en compagnie d'un jeune garçon nubien, n'était pas une chose facile à boucler. Et puis, une fois le film tourné avec des comédiens amateurs, présenter le film à Cannes n'avait rien d'une formalité, sachant qu'en plus, il s'agit d'un premier film. Avec ça, le réalisateur de Youmedine, Abou Bakar Choki, était le plus jeune des metteurs en scène cette année à prétendre à la Palme d'Or. Alors, un autre défi n'a pas été remporté, c'est celui de repartir de la croisette avec un prix. Youmedine étonne au premier abord. Alors, il étonne par le cadre de son sujet, ses personnages et puis sa forme. Le cadre de Youmedine est tout d'abord une léproserie, un lieu donc qu'on ne voit plus en Occident, soit un centre où l'on accueille les patients atteints de la lèpre. Cette maladie a ravagé le visage de Béchaï, qui en est maintenant guéri. Alors celui-ci, à la mort de sa femme, un peu esselé, eh bien, n'a plus qu'un but, retrouver sa famille dans le sud du pays, celle-là même qui l'a abandonné quand il était petit. Parmi les personnages de Youmedine, on a donc Béchaï, le lépreux, puis Barak, un petit enfant nubien qui se cache dans la charrette du lépreux quand celui-ci part sur les routes. Et tout comme Béchaï, eh bien, l'enfant fait partie des parias, et sur leur route, eh bien, ces deux-là vont croiser la plupart du temps d'autres parias. Ce qui nous amène à la forme de Youmedine, on l'a compris, il s'agit d'un road movie, d'oubli d'un buddy movie, hein, puisque le rapport entre le vieux lépreux et le jeune nubien, ce qu'ils vont supporter l'un et l'autre, eh bien, compose également l'ossature du récit. À cela, il faut ajouter que le parti pris du jeune réalisateur est de placer une bonne étoile sur ses personnages. Il ne tient ni à accabler ses personnages, ni les spectateurs. Quand on vient voir Youmedine, on doit en ressortir content. C'est la nature du feel-good movie. Même si Youmedine commence dans une immense décharge, donc, bien, le trajet qu'accomplit les personnages est parsemé de moments cocasses, de comédies, ou bon, comédie légère, ou de situations garantissant son quota d'émotion. De ce point de vue-là, Youmedine, qui signifie le dernier jugement, est assez atypique, puisqu'on s'attendrait davantage à voir en compétition à Cannes, pour un film égyptien, eh bien, plutôt un drame. Mais passé cette petite surprise, le film d'Abbé Choki peine à trouver une mise en scène suffisamment audacieuse pour porter son duo et faire de ce parcours dans une Égypte méconnue autre chose qu'un poncif du road movie. Alors il y a des citations évidentes, notamment à Freaks de Todd Browning ou encore Elephant Man de David Lynch, mais c'est justement parce que c'est trop évident que ça devient problématique, surtout pour la citation d'Elephant Man qui tombe un peu à plat alors que Béchaï, à force d'insistance, essaie de faire comprendre que ce n'est pas un animal. Pour emballer le parcours de ces deux personnages, rejetés par la plupart des Égyptiens, une belle lumière orangée qui là encore accompagne le spectateur dans une humeur qui est à la décontraction et colore le propos. Alors si Youmedine est un récit de deux personnages qui cherchent leur place, c'est aussi un film qui porte un sujet fort sur l'impossibilité du vivre ensemble malgré les différences, un thème qui résonne dans l'Égypte moderne avec les différentes tensions communautaires qui touchent le pays et qu'on voit aux informations, l'impossibilité d'accepter l'autre, de considérer qu'il serait mieux avec les siens plutôt que devant notre regard ou dans nos pattes, c'est-à-dire les lépreux ensemble et les nubiens ensemble, apparaît comme une conclusion assez surprenante pour un film qui nous proposait de la légèreté malgré ses personnages radicaux. Mais on va l'entendre de la bouche du réalisateur, ce qu'on gagne avec Youmedine, et ce qui est rare donc pour un film égyptien dédié à l'international, c'est que ça n'est pas un drame, il ne parle ni de politique ni de religion.
On aime bien faire des films qui amènent les spectateurs à se sentir bien après la projection. Pourquoi les amener à se sentir mal? Non, c'est un film qui nous amène à nous sentir bien.
Partager ce récit égyptien, pour moi, était d'une importance capitale. On voit un autre côté de mon pays. On voit les gens, avant tout. On voit des gens qui vivent leur vie. Mon pays est magnifique. Il y a plein de choses qu'on ne montre jamais. Et j'ai voulu montrer plein de choses. Il y a une séquence dans les pyramides, mais ce n'est pas les pyramides connues du monde entier, c'est une autre pyramide. On voulait voir un autre côté du pays, donner une autre image de l'Égypte.
En fait, je voulais
montrer le pays autrement.
On
n'entre presque jamais dans le centre du Caire. Je voulais montrer le pays entier, du nord jusqu'au sud.
Et jusqu'à
la léproserie, quand je tournais mon documentaire, la léproserie est située dans le nord du pays, mais les gens sont issus du sud. Je me suis dit, c'est une belle occasion de montrer ce personnage qui va traverser toute l'Égypte, mais juste avec un âne et une sorte de carrosse. Il est évident qu'il va rencontrer toutes sortes de difficultés. Il n'emprunte pas un moyen de transport habituel. Donc, c'est un petit peu un road movie égyptien. Ça permet de raconter l'histoire d'un pays qu'on ne voit pas toujours.
Ces deux personnages principaux sont analphabètes, leurs acteurs aussi, donc il a fallu leur apprendre à retenir le texte, de savoir où se poser quand on tourne. Il a fallu les suivre de près. Est religieux ou politique dans ce film n'est pas une prise de position. Par exemple, le titre de You Medine est très intéressant car il y a beaucoup de personnes qui, pendant le tournage, étaient des croyants et qui souvent nous disaient pendant le tournage, au jugement dernier, nous serons tous égaux. Car souvent, les gens que l'on voit dans le film ont toujours été jugés par les autres en fonction de leur apparence physique. Le dernier jugement, peut-être un peu le fil conducteur du film. On peut le voir comme ça, ce film. Le principal personnage est chrétien, l'autre est nubien, mais nous ne voulions pas parler des mauvais traitements qu'on leur inflige. On voulait simplement raconter une histoire de leur point de vue et les laisser vivre leur vie. Encore une fois, c'est qu'on s'attend souvent avec les films du Moyen-Orient qu'ils soient imprégnés de politique et de religion. Ce n'était pas notre intention. Nous voulions simplement faire un film le mieux possible pour montrer la vie des gens qui sont en lutte, parce que la vie est une lutte, plus ou moins. Ces personnages qui essaient de s'en sortir, qui essaient d'avancer, et ça pourrait arriver ailleurs qu'en Égypte aussi. Nous essayons de faire un bon film et de montrer l'Égypte sous un autre angle.
Alors c'était assez déconcertant, hein. Il y avait deux voix pour la traduction, mais c'était bien le même réalisateur, donc Abe Shoki, réalisateur de You Medine, qui était présent à Cannes, et c'est précisément là-bas qu'on avait pu le voir, à la conférence de presse du festival. On passe maintenant au film paraguayen, c'est très rare dans Cinérama, mais tu vas nous en parler, Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Une étrange sensation vous saisit alors dès l'ouverture de Les Héritières, hein, film provenant donc du Paraguay, à contre-courant du cinéma dominant et même une impression dérangeante de violer l'intimité d'une famille, ou plutôt d'un couple. Comme si on infiltrait en fait une histoire un peu sordide que l'on prendrait en cours de route sans y avoir été invité, et sans en saisir vraiment les enjeux ni identifier les personnages. Par des détails, des regards, des dialogues subtils, le récit s'éclaircit progressivement. La caméra s'attarde sur une silhouette, un regard touchant, celui de Chela, la soixantaine qui vit avec son amie Chiquita. Alors de leur vie passée dans le luxe et l'opulence, il ne reste que des bribes. Pour survivre, elles dilapident donc leur héritage. Elles vendent les objets précieux qui entourent leur vaste domaine. Pour une raison qui ne sera pas explicitée, Chiquita est envoyée en prison pour fraude fiscale. Chela reste chez elle, observant chaque jour le dénuement de sa maison, dernier vestige d'une richesse passée. Déboussolée par ce changement de situation, elle décide de se rendre utile en proposant de faire le taxi à des personnes alors très très âgées. Je crois que la moyenne d'âge du film doit être à peu près 80 ans. Elle, qui n'a jamais apprécié conduire, va éprouver un plaisir grandissant à son nouveau travail. Sa rencontre avec Angie, plus jeune qu'elle, va renverser en douceur le cours de sa vie. Alors Fritz Lang évoquait en substance que le scope n'était envisageable que pour filmer les enterrements. Alors cette boutade pourrait servir d'exemple à la première demi-heure de ce portrait attachant d'une senior tentant de reprendre sa vie en main. Tout le début des héritières ressemble étrangement à une sorte d'enterrement symbolique, filmé effectivement en 2.35, dans un espace clos en plus, là où la majorité des cinéastes auraient opté pour un cadrage plus serré, signifiant l'étouffement. Mais ce format, loin d'élargir l'espace, résulte d'un effet inverse, c'est-à-dire d'un écrasement. Ce choix stylistique s'accorde avec la situation de Chela qui ressemble à un petit bout de femme tassée et renfermée sur elle-même. Marcelo Martinesi, le réalisateur, observe la fin d'un règne, filme délicatement l'agonie d'une petite bourgeoise vieillissante qui doit faire le deuil d'un passé prospère. Un passé qui n'est pas montré mais suggéré à travers la tristesse des regards croisés des deux amantes. On saluera au passage l'audace des scénaristes de présenter deux lesbiennes aisées d'un âge avancé dans un film dont le cœur du récit n'a absolument rien à voir avec un propos militant. C'est quand même assez rare. Cette atmosphère lugubre de cérémonie funèbre est accentuée par une photographie tout en clair-obscur avec un penchant pour les couleurs blafardes et sombres. Mais petit à petit, ce drame intime au confluent des genres lève son voile et s'ouvre à l'image du personnage principal à la vie. Alors Chela, d'abord sonnée d'être dépouillée de ses biens, va prendre son existence en main et découvrir le monde extérieur, suggéré par deux, trois plans subtils sur le visage de l'actrice comme étant un terrain quasi inconnu. Elle va renaître sans que cet aspect soit réellement appuyé, le réalisateur se gardant bien de tout s'expliquer. Des zones d'ombre subsistent et surtout, il n'est pas question de rédemption. Mais contrainte et forcée, il est toujours possible de refaire sa vie malgré l'épuisement ressenti à un moment donné de l'existence. Chela va simplement se rendre compte qu'à son âge, on apprend toujours. La deuxième partie, alors là, glissant gentiment du côté du feel-good movie, lors de sa rencontre avec Angie, est moins convaincante, arrondissant de façon consensuelle un sujet quand même ingrat au préalable. Marcelo Martinesi tente une approche plus séductrice en y intégrant des touches de comédie. Cette légèreté affichée paraît artificielle, concession pour plaire à un public plus large.
T'as rien comme un taxi.
Vos no deberías andar manejando, ni registro de mí. Imagínate si chocas. ¿Salgo yo de un trato?
Disculpame, ¿será que me puedes llevar a casa el campeonato?
Sí, ¿cómo no?
Vamos.
Oh, loca. Divina. Que canta, que llora, que ríe, que reza.
Sibila,
necesito hablar contigo.
Malgré les défauts, il faut saluer l'audace de ce premier long métrage, osant braquer sa caméra tout le long sur une femme d'âge mûr, plutôt ronde, loin de la beauté de Sonia Braga dans Aquarius de Kleber Mendoza Filho, auquel on songe parfois. Alors d'en faire une héroïne magnifique, qui ne soit ni une laissée pour compte, ni un personnage haut en couleur, juste une bourgeoise passive en pleine reconversion qui va peut-être découvrir la seule chose qui lui manquait, la liberté. Marcelo Martinesi opte pour une mise en scène assez contemplative, limite neurasthénique, c'est très lent, en accord avec la lenteur des gestes de la population âgée qu'il observe avec tendresse. Parce qu'il y a des scènes comme ça où une vieille dame ouvre la porte et c'est filmé en temps réel.
Elle beurre sa tartine.
Voilà, c'est un peu ça. Alors ceux qui recherchent une critique sociale sur la décadence d'une aristocratie seront déçus. Les autres, s'ils acceptent une forme plutôt aride, n'évitant pas toujours l'ennui, seront séduits par ce beau portrait de femme sensible et singulier.
Et puis à noter que c'est comme les éclipses, les films paraguayens, il faut attendre un certain
l'année
temps.
L'année prochaine, donc à peu près le 12 novembre, on en verra un prochain. Ouais.
Ah bon.
Je fais le pari.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
C'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Bon, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, nous écouterons l'équipe de Lola et ses frères. Ce sera l'interview et puis il y aura un blind test, celui autour de la filmographie de Bertolucci. J'aurais vu Leto, le film russe. Et quant à toi,
Pig.
À la semaine prochaine.